VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Pierre Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui, au sommaire ce soir. L'ancien président malien Amadou Toumani Touré de retour d'exil ce dimanche. Offensive de l'armée ougandaise contre des camps de rebelles ADF Nalou dans l'est de la RDC. Le président palestinien Mahmoud Abbas prévient qu'il n'acceptera aucun plan de paix américain. Et puis Madrid maintient son intransigeance après la victoire des indépendantistes catalans aux élections régionales. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé le retour de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré en exil au Sénégal depuis 2012. C'était à la faveur de la 14e édition de la Journée nationale des communes du Mali. Ibeka confirme donc une rumeur qui circulait à Bamako depuis le début de la semaine. Plus de détails avec Kassim Traoré.
Confection de t-shirts et banderoles à l'effigie du président ATT par-là, réunion des membres du parti PDS sur le retour d'ATT par-ci. L'information sur le retour de l'ancien président ATT était toujours prise sous forme de rumeurs. C'est ce vendredi 22 décembre 2017, à la faveur de l'ouverture de la 14e édition de la Journée des communes du Mali, que le président Ibeka a été clair. Maintenant que les choses se sont apaisées, j'ai demandé à mon frère cadet ATT de regagner son pays. Quand il partait au Sénégal, il a demandé à la CEDEAO. Macky Sall lui a envoyé l'avion présidentiel. Le Mali ira et c'est l'aéronef présidentiel qui quittera dimanche matin pour le ramener à Bamako. En bon jeune frère, il a souhaité déjeuner avec moi à la maison à Sebenikoro. Nous avons remercié le président Macky Sall pour son hospitalité. Fin de citation. C'est ce dimanche 24 décembre 2017 que l'ancien président malien qui a passé 5 ans, 8 mois à Dakar va signer son retour au bercail. Dans le programme prévu, ATT se rendra dans sa ville natale à Mopti. Il aura aussi des entretiens avec des notabilités à Bamako avant de retourner à Dakar. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président français Emmanuel Macron est attendu en fin de journée au Niger pour réveillonner avant l'heure avec des centaines de soldats français qui sont déployés pour l'opération Barkhane. Après Gao, Ouagadougou et Abidjan, cette courte visite d'une vingtaine d'heures à Niamey témoigne de la priorité que donne le chef de l'État français à la stabilisation du Sahel. L'armée ougandaise a lancé ce vendredi des attaques dans l'est de la RDC contre des camps de rebelles ADF Nalou. Aucun bilan n'a été communiqué jusqu'ici. Plus de détails avec Nathalie Barge.
Ces rebelles prévoyaient de mener des actions hostiles contre l'Ouganda, a déclaré l'armée ougandaise, affirmant se baser sur des informations partagées entre l'Ouganda et la RDC. Dans la nuit du 7 au 8 décembre, 14 casques bleus tanzaniens avaient été tués dans un raid contre leur base de Semuliki, dans le Nord Kivu, près de la frontière ougandaise. L'attaque a été attribuée aux ADF, un groupe musulman rebelle né en 1995 en Ouganda. Ils ont depuis été progressivement repoussés par l'armée ougandaise jusqu'à s'installer en RDC. Les pays de la région des Grands Lacs ont ouvert en février à Kasese en Ouganda un centre de renseignement pour coordonner leurs efforts militaires contre ces rebelles. Les ADF sont l'un des nombreux groupes armés actifs dans les deux Kivu, province de l'Est congolais, frontalier de 4 pays et de 3 Grands Lacs.
Joint par VOA Afrique, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende n'a pas été en mesure de confirmer cette attaque et il a dit ne pas souhaiter s'exprimer sur cette question. Toujours en RDC, 12 personnes sont mortes et 10 autres ont disparu dans le naufrage d'une embarcation sur la rivière Kilou, dans le centre du pays. L'accident s'est produit alors que l'embarcation était très surchargée, avec plus de 50 sacs de ciment, du matériel de construction et plus de 30 passagers à bord, selon un responsable local. La presse privée mauritanienne est absente des kiosques depuis plus de 10 jours à cause d'une pénurie de papier à l'imprimerie nationale, ce qui a empêché la parution d'une vingtaine de journaux, dont 7 quotidiens. aucune précision n'a été apportée sur l'origine de cette pénurie de papier. Le regroupement de la presse mauritanienne, le principal syndicat de la presse privée, accuse les autorités de chercher volontairement à limiter la diffusion de l'information aux seuls organes de l'État. La Tunisie va s'efforcer de briser le plafond de verre dans la fonction publique où trop peu de femmes occupent des postes de direction, selon une étude rendue publique aujourd'hui. Sur les quelques 630 000 fonctionnaires tunisiens, 37% seulement sont des femmes, selon Raoula Labidi, la coordinatrice générale du projet. L'embellie se confirme pour le tourisme marocain. Donc le Maroc va franchir la barre des 11 millions de visiteurs en 2017, grâce notamment au renforcement des liaisons aériennes après plusieurs années de quasi-stagnation de ce secteur clé de l'économie marocaine qui représente 10% de la richesse nationale. Marrakech, Agadir et Casablanca arrivent en tête des villes les plus visitées. Pour renforcer davantage ce secteur, les promoteurs du tourisme marocain parient sur de nouveaux marchés, en particulier la Chine et la Russie, avec une suppression de visas.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, estime que les États-Unis se sont discrédités en reconnaissant Jérusalem comme la capitale d'Israël. Pour lui, pas question d'accepter un plan de paix américain dans le conflit israélo-palestinien. Plus de détails avec Bagasigoura.
Mahmoud Abbas a dénoncé ce qu'il estime être l'esprit partisan de l'annonce du président Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël. Abbas a fait cette déclaration à Paris à l'issue d'un entretien avec le président français Emmanuel Macron. Avec cette annonce du président Donald Trump sur Jérusalem, les États-Unis se sont disqualifiés eux-mêmes, a-t-il dit. Ils ne sont plus un médiateur honnête dans le processus de paix. Selon le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas a par ailleurs vivement critiqué les menaces financières adressées par les États-Unis aux pays susceptibles de condamner leur position sur Jérusalem à l'ONU. Hier, 128 des 193 pays membres de l'ONU ont voté en faveur d'une résolution condamnant la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Ce vendredi, deux Palestiniens ont été tués lors des manifestations, portant à 10 le nombre de manifestants tués depuis l'annonce de Trump le 6 décembre.
Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce aujourd'hui sur un projet de résolution américain durcissant les sanctions contre la Corée du Nord, notamment concernant le pétrole et la question des travailleurs nord-coréens à l'étranger. Pyongyang est déjà visé par 8 trains de sanctions onusiennes particulièrement drastiques, dont les deux derniers ont été adoptés cet été sous l'impulsion déjà des Américains, après des essais de missiles et un test nucléaire mené par la Corée du Nord. Le président américain a promulgué aujourd'hui la baisse d'impôts pour les entreprises et les ménages adoptée par le Congrès cette semaine et qui s'appliquera dès 2018. Donald Trump a signé la loi dans le bureau ovale avant de partir en vacances dans son club privé de Mar-a-Lago en Floride. En Espagne, après la victoire aux élections régionales, les indépendantistes catalans envisagent une reprise du pouvoir. Toutefois, leurs dirigeants restent en exil ou en prison et Madrid maintient son intransigeance. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Depuis Bruxelles, où il a pris la fuite pour éviter l'arrestation, le président catalan déchu, Carles Puigdemont, a proposé au chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, de le rencontrer. Monsieur Rajoy a repoussé cette offre, estimant que la personne avec laquelle il devrait discuter, c'est celle qui a remporté les élections régionales, Inés Arrimadas. Parmi les nouveaux députés indépendantistes, 17 sont inculpés, dont 3 en prison et 5 en exil. La victoire des indépendantistes en nombre de sièges, mais pas en voix, est limitée par le bon résultat du plus résolu des partis opposés à l'indépendance, qui est arrivé en tête avec 37 députés. Toutefois, cette formation ne dispose pas d'alliés pour former une coalition de gouvernement. Les socialistes opposés, comme elle, à l'indépendance n'ont que 17 sièges et le PP n'a obtenu que 3 sièges. Si aucun gouvernement n'est formé à Barcelone avant fin mars, de nouvelles élections devront être convoquées dans les 2 mois qui suivront. Mais déjà, Madrid a prévenu que le prochain gouvernement catalan, quel qu'il soit, sera soumis à l'empire de la loi.
En Belgique, Théo Franken, le secrétaire d'État à la migration, a présenté ses excuses au Premier ministre Charles Michel. Le nationaliste flamand l'a fortement critiqué pour avoir suspendu les expulsions vers le Soudan hier, après la publication de témoignages faisant état d'arrestations et de violences subies par plusieurs jeunes Soudanais après leur rapatriement. Charles Michel a suspendu toute expulsion le temps qu'une enquête indépendante avec l'aide de l'ONU fasse la clarté sur ces accusations. 5 blogueurs pakistanais connus pour leur soutien à la laïcité sur les réseaux sociaux ont été disculpés de très lourdes peines, de très lourdes accusations de blasphème qui pesaient contre eux. Les 5 hommes avaient disparu en janvier, faisant craindre une reprise de l'État sur la toile. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le gouvernement burkinabé mobilise 131 milliards de francs CFA pour son plan national de développement économique et social. La ministre de l'économie, Rosine Koulibaly, a signé 5 accords de financement à cet effet. La Banque mondiale, le FIDA, l'ABAD, la Chine et l'Agence française de développement vont réunir ce montant. Ce plan consiste à développer l'énergie, booster la production du riz, des produits maraîchers, du sésame et du niébé, mettre en œuvre le bitumage de l'axe Gauguin-Fadan-Gourma, Piéga frontière du Niger, la mise en place d'une unité de coronographie et de cardiologie interventionnelle au centre hospitalier de Tengandong, et l'appui budgétaire et d'aide au règlement de dette. La Banque mondiale octroie au Togo plus de 58 milliards de francs CFA. Ce nouveau financement est scindé en 2 parties, dont un don et un crédit. Les secteurs prioritaires de l'éducation, de la santé, l'énergie, l'eau, les infrastructures, l'appui à la gestion fiscale et les réformes dans la gouvernance économique sont ciblés. Le FMI, enfin, a donné au Cameroun plus de 65 milliards de francs CFA. C'est un nouveau décaissement d'un montant total de plus de 370 milliards de francs CFA échelonné sur 3 ans, mais soumis à de la validation des revues semestrielles. Ce financement vise à restaurer la viabilité extérieure et budgétaire du Cameroun et jeter les bases d'une croissance durable et inclusive impulsée par le secteur privé.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Ah oui, bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Le cadeau de Noël en avance pour les amateurs de football, le Classico demain en Espagne.
Oui, l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo, victime d'un coup le week-end dernier, a repris aujourd'hui l'entraînement. Il est à 100% pour le Classico contre le FC Barcelone. Ce sera demain en championnat d'Espagne. Déclaration de l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane. Le quintuple Ballon d'Or a effectué son retour avec ses partenaires ce vendredi sur la pelouse du centre d'entraînement du Real. Et il a pris part à l'échauffement sans gêne apparente.
En Angleterre, Manchester City caracole toujours en tête.
Seul leader invaincu d'un grand championnat en Europe avec le FC Barcelone, Manchester City accueille la modeste formation de Bournemouth et semble sur des rails pour continuer sa marche en avant dans cette première ligue. Ce sera samedi lors de la 19e journée. À 11 points derrière, le voisin Manchester United aura un match beaucoup moins facile en se déplaçant chez le champion d'Angleterre 2016, Leicester.
En Italie, le choc Juventus de Turin à AS Rome.
La Serie A qui offre ce samedi un joli cadeau de Noël aux Tifosi en clôture de la 18e journée. Pour ce choc de samedi à Turin, les Romains essaieront d'oublier leur élimination mercredi en Coupe d'Europe au Torino. En crise de résultats, le Milan AC de Gattuso effectuera un déplacement difficile à Bergame pour y affronter l'Atalanta. Quant à la Lazio de Rome, elle recevra Crotone.
Enfin, quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, le leader de la conférence Est, Boston, s'est incliné face à New York, 93-102. Cette défaite permet aux Toronto Raptors de revenir légèrement sur Boston. Grâce à 45 points de DeMar DeRozan, les Raptors ont battu Philadelphie 114-109. Cleveland a dominé Chicago 115-112. Et puis à l'Ouest, nouvelle défaite pour San Antonio qui a du mal à l'extérieur. Utah qui bat les Spurs 100-89.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Retour sur le vote hier à l'Assemblée générale de l'ONU condamnant la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Une large majorité des pays a voté en faveur de la résolution non contraignante. Quelles en sont les implications? Yacouba Ouédraogo a joint le professeur Babacar Samb, ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte et enseignant à l'université de Dakar.
Il fallait s'y attendre. Donc l'ensemble des pays arabes d'abord votent la résolution. Et la majorité des pays africains, asiatiques, qui ont une majorité musulmane, ne peuvent pas ne pas voter. Et plus que toutes les grandes puissances qui défendent une solution négociée à deux États, ne pouvaient pas aller dans le sens donc des États-Unis. C'est pas contraignant, mais quand même c'est un échec diplomatique dans la mesure où le président Trump avait menacé les pays qui reçoivent donc de l'aide des États-Unis.
La résolution, elle est non contraignante. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là?
Il faut entendre par là que les États-Unis peuvent transférer leur ambassade à Jérusalem, mais ils sont les seuls à le faire. Et la majorité des pays restent à Tel Aviv. Cela montrerait quand même un isolement diplomatique et politique des États-Unis et que ce serait également considéré comme une violation des résolutions des Nations Unies sur le Moyen-Orient. Mais il faut s'attendre à ce que le président Trump revoie le principe de transfert de l'ambassade des États-Unis donc à Jérusalem.
Cette résolution a été introduite par l'Égypte. Malgré la menace américaine, beaucoup de pays africains ont voté pour la résolution ou se sont abstenus ou n'ont même pas participé au scrutin. Quel est l'apport de ces pays africains-là dans l'adoption de ces textes?
Si aujourd'hui c'est l'Égypte également le pays qui est le mieux aidé par les États-Unis donc au Moyen-Orient, sur le plan militaire, sur le plan financier et qui garantit le plan de paix. Le premier pays menacé, ce serait l'Égypte. Mais comme l'Égypte n'a pas véritablement retiré le projet de résolution et l'ensemble des pays africains considèrent l'Égypte comme un pays africain, et que les conséquences et les répercussions, ce serait effectivement que les pays africains, avec l'ensemble des pays arabes, constituent un poids important pour la politique extérieure des États-Unis.
L'administration américaine a fait savoir qu'elle n'allait pas changer d'avis. La représentante des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a même menacé de revoir la contribution financière de l'Amérique à l'ONU. Qu'est-ce qui va se passer par la suite?
Faire peser le poids des États-Unis sur le plan financier ou de la coopération internationale est improductif à mon avis. Mais il faut que les États-Unis envoient peut-être des délégations au niveau des pays arabes et des pays africains pour essayer d'expliquer sa position et de vouloir relancer par l'échec de cette résolution un plan de paix pour se réhabiliter.
C'était le professeur Babacar Samb, il était joint à Dakar. Au Zimbabwe, un fermier blanc a été le premier à récupérer ses terres après que le nouveau ministre de l'Agriculture ait ordonné l'évacuation des occupants illégaux d'exploitations agricoles. L'ex-président Robert Mugabe les avait confisqués manu militari pour les distribuer à ses proches et à des fermiers noirs sans équipement et souvent sans formation, il y a de cela près de deux décennies. Cette réforme agraire a provoqué un effondrement brutal de la production.
Monsieur Mnangagwa, il a fait quelques discours.
Pour savoir comment, excusez-moi, nous avons un petit souci technique, pour savoir comment cette politique du tombeur de Mugabe est perçue, Eric Manirakiza a joint à Harare le directeur du Novasc, John Stewart.
Monsieur Mnangagwa, il a fait quelques discours positifs. Qu'il sera le président de toutes les personnes dans le pays, qu'il n'y a personne qui sera au-dessus de la loi. Il a, par exemple, décidé que les terres qui n'ont pas été distribuées correctement par la loi doivent être rendues aux fermiers blancs. C'est jusqu'ici, je crois qu'il y a un ou deux des fermiers blancs qui sont rentrés sur leurs fermes qu'ils avaient antérieurement.
Comment les Zimbabwéens réagissent
à la remise des terres aux fermiers blancs.
Monsieur Mnangagwa a souligné que ce qu'il appelle la réforme agraire ne peut pas être arrêté ni renversé, mais il veut que ça soit fait correctement. Il était le ministre de la Justice pendant qu'une nouvelle constitution soit mise en place. Et donc, il est conscient du fait que les choses doivent être faites correctement. Il y a la grande question de la dette nationale, quelques 10 milliards de dollars qui est deux fois le budget national.
Il veut donc booster l'économie et il a compris que c'est l'agriculture qui constitue un atout pour pouvoir y arriver. Donc les fermiers blancs sont importants.
Il y a au moins une partie des fermiers blancs parce qu'une grande partie des fermes qui ont été distribuées sont occupées par des fidèles du parti Zanu. À mon avis, ce qu'on a fait depuis l'an 2000 n'était pas une réforme agraire formellement dite, mais une redistribution des terres et surtout à des fidèles du parti. Et donc, je ne crois pas que M. Mnangagwa va aller très loin dans le sens de rendre beaucoup de fermes aux Blancs. Mais il y aura quelques-uns au moins.
Est-ce que les vétérans de la guerre ne vont pas peut-être voir Mnangagwa comme une menace?
Les vétérans de la guerre sont derrière M. Mnangagwa, en fait, au moins la grande majorité d'entre eux. Mais il y a beaucoup de vétérans de la guerre qui ont reçu des fermes, en fait, au moins les chefs des vétérans de la guerre.
Il a nommé un ministre de l'agriculture, un militaire. Est-ce que c'est pour pouvoir faire face à des oppositions éventuelles à la remise des terres aux fermiers blancs?
Oui, c'est un ancien combattant, c'est quelqu'un qui était dans la guerre de libération à partir du Mozambique. Quelques-uns de ces militaires ont au moins une réputation positive sur le plan de leur efficacité.
C'était l'activiste John Stewart, il était joint à Harare. C'est la période des fêtes de fin d'année et nous vous proposons une série de reportages. Direction la Côte d'Ivoire, où les fêtes de Noël, de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An se préparent. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
Nous sommes au grand marché d'Agamé, le plus grand du pays et l'un des plus grands de la sous-région. Il est toujours difficile ici de se frayer un passage. Avec les fêtes de fin d'année, l'affluence est encore plus grande. Agamé, c'est l'endroit idéal pour faire de bonnes affaires, pour acheter des jouets en cette période de fête.
Bon, je suis venu me promener un peu avec les enfants pour payer les jouets. Bon, on a eu ce qu'on voulait. On a pris une voiture, poupée, la moto.
Les prix sont abordables et donc je repars satisfait parce que quand je venais, j'étais un peu inquiet. Je me suis dit que bon, peut-être qu'il y aura une flambée des prix. Et quand la fête est proche, les prix augmentent. Bon, cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Donc je repars très satisfait.
Je suis venu chercher des petits jouets aux fruits et aux enfants du village.
Les prix.
Bon, je pense que ça va. Il y a tous les prix, ça va.
Les clients sont satisfaits, les commerçants aussi.
Les emballages avec les chapeaux de Noël. Bon, ça va, on ne se plaint pas. Les gens crient qu'ils n'ont pas l'argent, mais ça va.
Actuellement, c'est les vélos, la période des vélos. Bon, on voit un peu de tout, les voiturettes et un peu de tout. Tout ce qui peut ambiancer les enfants. Il n'y a pas trop d'engouement comme les années passées, mais tout de même, ça va un peu.
Cap sur Yopougon, la plus grande commune du pays, Yopougon-Sikoji. Ici, les coiffeuses ont pignon sur rue. Pour les femmes, il faut se faire plus belle.
C'est la fête, ça touche pas tout le monde.
Vous faites belle, c'est pour qui?
C'est pour mon mari, parce que c'est lui qui m'a donné l'an de coiffure.
Donc ça se passe bien?
Non, c'est un peu compliqué, mais on fait comment?
C'est compliqué quoi?
C'est nos petites économies, sinon actuellement, pays là, c'est compliqué, il n'y a pas l'argent. Sinon, ça, c'est nos petites économies. Comme on fait le commerce là, qu'est-ce qu'on a gardé là pour venir s'habiller? Sinon, il n'y a pas l'argent dans le pays là, c'est compliqué.
Pascaline est coiffeuse. Pour elle, ce n'est pas encore la grande affluence.
Et cette année là, c'est un peu lent parce que ça ne marche pas trop comme on le souhaitait. Bon, on attend, on espère que ça va aller.
Non, non, c'est pas trop cher. On n'est pas trop cher. Avec 3 000, 3 500, ça passe. Donc, pas trop cher. Voilà, tout le monde peut venir, c'est vraiment belle. Donc, on attend un peu. Vers le 27, 28, jusqu'à 31, on va voir.
Les restaurants populaires communément appelés maquis et les buvettes se préparent aussi pour faire face à l'affluence des fins d'année.
À notre niveau ici, nous prenons des dispositions pour la fête au niveau de la sécurité, au niveau aussi du personnel du barbier, renforcer le personnel de la sécurité afin que la clientèle soit à l'aise et puis bon, tout le monde se sent dans la fête ici. Au niveau de nos commandes déjà avant la fête, même 2 jours avant la fête, nous avons des dispositions que nous prenons afin que la boisson soit à notre niveau déjà.
Pendant plus d'une décennie, le cœur n'était pas à la fête ici en raison de la crise sociopolitique et militaire. Aujourd'hui, avec la normalité en cours, les Ivoiriens n'entendent pas bouder leur plaisir. Georges Ibrahim Toukara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24. Au Togo, face à une activité commerciale en berne, les commerçants se plaignent de la mévente pendant que certains habitants de Lomé, la capitale, disent ne pas avoir le cœur à la fête. Reportage de notre correspondante au Togo, Kay Lawson.
Nous sommes dans la plus grande zone commerciale de Lomé, précisément au marché d'Agbadahonou, une place aménagée pour accueillir les commerçants suite à l'incendie du bâtiment principal du grand marché de Lomé en janvier 2013. Sur place, les visages se crispent, comme si c'était passé le mot.
De rien ne marche.
À en croire les commerçants interrogés.
Quand on vient au marché, on installe les choses. Il n'y a pas le marché, on n'arrive pas à vendre. C'est la fête qui vient comme ça, mais rien ne va du tout. Il y a des gens qui ne vont pas en Chine. Quand les gens vont en Chine et autres, là, ça va. Mais maintenant, tout le monde s'est caché. Tu vas prendre l'argent pour aller en Chine, payer des choses, venir s'installer dans la boutique. Il n'y a pas le marché. Comment on va faire?
Les étrangers ne viennent pas. Il n'y a pas l'argent, donc il n'y a pas de vente. Rien ne marche. Depuis le matin qu'on est venu, on n'a rien vendu. Mais nous vendons des habits des enfants. En ce temps-ci, les années passées, ça ne se passe pas comme ça. Les années passées, on disait qu'il n'y a pas l'argent, mais cette année-là, c'est pire.
Les activités ne marchent pas comme avant. On ne vend pas au marché, mais par la grâce de Dieu, ça va.
Franchement, commercial, ça ne va pas. Ça ne va pas, rien ne marche. Les gens ne viennent pas, nous on sort, mais les gens ne viennent pas.
Pourtant, ces commerçants ont garni leurs étalages et boutiques attendant les clients quasiment absents. La crise politique que traverse le pays depuis 4 mois, on serait pour quelque chose.
À cause des manifestations, on ne vend pas, c'est trop. Donc il faut que le dialogue soit vite fait.
S'il y a marche, rien ne marche. Donc on sait que si la marche s'arrête aujourd'hui, on peut aussi vendre un peu et puis ça va aussi marcher pour nous aussi.
Un tour en pile, le constat est tout autre. Lomé a fait sa toilette et ses boulevards et avenues sont parés de leurs plus beaux atouts pour annoncer des fêtes que certains Togolais n'attendent pas forcément. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Lionel Gaïma. À la console, Sidrak Franklin. Au micro, Claire Morin-Gibour. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com bien sûr, sans oublier notre page Facebook. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.